Pas être allé au bout de ses capacités la retient.
J'ai fait ce que je pouvais, mais c'est trop difficile. C'est même objectivement impossible.
Lançant ses jambes par saccades, elle effectue un mouvement de pendule et parvient à rejoindre le rocher qui lui fait face. Elle essaie d'oublier la douleur, pose un garrot serré à son bras, tandis que dans son esprit s'installe une pensée récurrente.
Je peux y arriver. Il faut juste ne pas laisser tomber. Tenir.
Elle serre les mâchoires, avale sa salive et reprend sa descente dans le couloir en pente. Le plafond s'abaisse progressivement devant elle, mais elle ne renonce pas. Le passage devient plus étroit encore, la roche plus dure, plus noire, plus odorante. Bien que sa tête frotte parfois la paroi supérieure, elle arrive encore à avancer.
Cette matière sombre, cela doit être du charbon. C'est bon signe. J'approche de la veine principale.
Son bras est devenu brûlant, mais elle concentre son attention sur le goulet, si étroit maintenant que même ses hanches passent avec difficulté. Lorsqu'elle parvient enfin au bout du tunnel, elle perçoit un râle derrière le mur de roche. Elle sort avec difficulté les explosifs de son sac à dos et les dispose contre la paroi, puis s'éloigne et déclenche le détonateur. L'explosion ne creuse pas une cavité assez profonde, alors toujours dans l'obscurité totale, elle poursuit le travail à l'aide du marteau-piqueur portable de son sac à dos. Son bras blessé la ralentit, mais les râles derrière la paroi se font plus nets et l'encouragent à continuer. Enfin, la paroi cède d'un coup.
J'ai réussi.
Elle débouche dans la cavité où les mineurs chiliens sont retenus prisonniers. Certains gisent sans connaissance, d'autres bougent à peine, gémissant faiblement. L'odeur est infâme. Elle, Emma 103683, la minuscule humaine de 17 cm, vient de sauver une centaine d'hommes coincés sous la terre après un éboulement. Elle vérifie que ces êtres 10 fois plus grands qu'elle respirent encore, puis elle annonce dans le micro de son casque
« Mission accomplie ».
Surmontant la douleur de sa blessure, elle précise
« Ils n'ont pas l'air bien frais, mais ils sont vivants. Vous pouvez les sortir de la terre ».
2. Il m'appelle la Terre. Il me voit comme une planète, comme une grande pierre sphérique. Ils oublient qui je suis vraiment. Ils n'imaginent même pas que je suis vivante, intelligente, consciente. Pour moi, ils ne sont que des petits parasites, et je les trouve si jeunes, si fragiles, si nombreux, si sûrs de leur importance. J'en ai vu défiler des locataires. Les dinosaures aussi se trouvaient importants et n'imaginaient pas que la planète qu'ils piétinaient était capable de penser. J'ai quand même plus de 4 milliards d'années. Cela mérite le respect de la part d'une espèce apparue tout au plus il y a 7 millions d'années. 3.
Incroyable dénouement d'un voyage au centre de la Terre. Une micro-humaine du nom d'Emma 103683 est arrivée à descendre seule au fond d'un labyrinthe de galeries souterraines plus ou moins effondrées jusqu'à rejoindre la poche d'air où 133 mineurs de l'exploitation de San José au nord du Chili étaient pris au piège depuis maintenant 15 jours après un éboulement qui les avait surpris en plein travail. Par chance, les mineurs avaient pu trouver une poche d'air servant d'abri avec des réserves d'eau et de nourriture pendant que les secours s'organisaient. Une première équipe de sauvetage était descendue dans une cheminée pour les tirer d'affaire, mais un nouvel éboulement avait coincé les sauveteurs qui avaient été obligés de renoncer. On croyait déjà que plus rien ne parviendrait à secourir les 133 hommes bloqués à 3 km de l'entrée du site, lorsque l'idée d'utiliser des émaches, comme lors du drame de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, ces humains de petite taille fabriqués en laboratoire, est apparu. C'est ainsi qu'Emma 103683 est partie seule pour la mission de la dernière chance. La minuscule héroïne a pu progresser dans les goulets étroits de quelques centimètres de diamètre à peine, là où les humains de taille normale n'auraient jamais pu passer. Parvenue aux abords de la caverne où étaient coincés les 133 mineurs, la petite Emma a su faire exploser la paroi, puis la creuser au marteau-piqueur et au piolet, afin d'ouvrir la voie qui a permis leur sauvetage. Les prisonniers ont ainsi pu être remontés et acheminés vers l'hôpital le plus proche de Copiapó. Aux dernières nouvelles, ils seraient tous hors de danger. Retrouvons maintenant les autres titres qui font l'actualité. Football, un nouvel entraîneur, Joe Falcon, a été nommé pour diriger l'équipe de France. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il comptait débarrasser l'équipe nationale de ses habitudes d'enfant gâté et capricieux. Pour commencer, il a interdit à ses joueurs de parler à la presse et leur a demandé de ne plus arborer de vêtements aux marques de leurs sponsors personnels. De même, pour couper court à toutes les rumeurs quant à leur mode de vie ostentatoire, ils ne se déplaceront plus ni en jet privé, ni en voiture de luxe. Cependant, Joe Falcon a exprimé le souhait de conserver Ndiaye comme capitaine, car il est actuellement, selon lui, le meilleur joueur français. Nous l'avons immédiatement contacté en Suisse où il réside actuellement.
« Jusque-là, nous n'avions pas de chance », a-t-il déclaré, « mais cette fois, je suis sûr qu'on va gagner. »
Génération Cocooning, une analyse sociologique du CDN, le Centre démographique national, montre que la nouvelle génération devient une génération cocooning, qui vit dans un cocon et ne désire plus en sortir. Les jeunes restent le plus souvent enfermés dans leur chambre, ne veulent être dérangés par personne et surtout pas par leurs parents. Reliés au monde extérieur par leur ordinateur et Internet, ils partagent aussi des jeux multijoueurs, échangent sur des réseaux sociaux, se tiennent informés du monde, visionnent des films, lisent des livres, écoutent des musiques sans quitter leur fauteuil. Pour se nourrir, ils se font livrer des pizzas, des hamburgers ou des sushis. De quoi survivre sans mettre le nez dehors. Et cette tendance, nous apprend-on, ne fait que s'accentuer. De plus en plus de jeunes se contentent de cette vie protégée. Or, le manque d'exercice et la vie en milieu confiné, disent les médecins, vont avoir de sérieuses répercussions sur leur santé. Moyen-Orient, nouveau massacre de pèlerins sunnites en Irak, près de la ville de Kerbala, perpétré par un groupe de chiites. Les tueurs s'étaient déguisés en policiers et avaient installé un faux barrage de contrôle. Ils ont arrêté 4 bus de pèlerins se rendant à la Mecque, ont fait descendre les passagers et les ont égorgés un par un. Les femmes, les vieillards et les enfants n'ont pas été épargnés. On compte plus de 430 victimes. La scène a été filmée puis diffusée sur Internet. Le message qui accompagne le film fait clairement référence à la fête dite de l'Ashura et annonce qu'il s'agit là de venger le meurtre de l'imam Hussein à la bataille de Karbala en l'an 680, par les hommes du calife des Omeyyades, Yazid Ier. Selon la voix off de la vidéo, ces sacrifices sont offerts pour éteindre l'incendie de la colère des martyrs chiites. Ce drame passé ne sera jamais lavé tant que nous n'aurons pas fait couler des fleuves de sang issus des veines de tous les chiens sunnites. Science, réussite de l'atterrissage sur la planète Mars de la nouvelle sonde Scout, destinée à analyser la composition de la surface martienne et son atmosphère. C'est un nouveau succès pour cette mission spatiale qui aura coûté plus de 2 milliards de dollars aux contribuables américains ainsi qu'aux différents pays associés au projet et qui ont fourni les appareils de haute technologie, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Un pas de plus vers l'exploration de l'espace alors que le projet privé du milliardaire canadien Sylvain Timsit connaît de sérieux revers. Le papillon des étoiles 2, ce voilier spatial géant à propulsion photonique, capable de sortir du système solaire, est en effet confronté à des incidents techniques qui ont obligé ses ingénieurs à repousser une fois encore la date probable de son décollage. 4. Le doigt appuie sur la télécommande qui éteint l'écran du téléviseur où défile la suite des actualités. Puis, la main se pose sur la table à la marqueterie complexe représentant des feuilles entrelacées. Et maintenant, nous faisons quoi ? Le président Stanislas Drouin ouvre la fenêtre. Il observe les jardins de l'Élysée et ses jardiniers affairés à soigner pelouses et fleurs. Voilà maintenant un an que nos micro-humains accomplissent des miracles partout dans le monde et que notre entreprise est florissante. M'autorisez-vous à faire visiter Pygmée Prod aux journalistes, monsieur le président ? Questionne Natalia Ovitz. Le chef de l'État fronce les sourcils. Avec ses cheveux poivre et sel, sa petite bedaine et ses lunettes rectangulaires, il affiche plus que son âge. Face à lui, le colonel Ovitz, une femme naine de 50 ans qui a gardé ses cheveux noirs et son visage déterminé, est prête à reprendre les missions sur le terrain. « Les journalistes, mais d'où vous vient cette idée saugrenue ?»
Il le réclame, et je crois que désormais, après le succès de la mission d'Emma 103683 au Chili...
nous pouvons dévoiler l'en...